c'est la réconciliation. Qu'est-ce que ça vous évoque, le mot réconciliation ? D'accord. Quoi encore ? Retrouvailles. Très bien, pardonner dans les deux sens. Pardon accordé, pardon reçu. Contact, ok, très bien. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'il faut recoudre un peu les morceaux. Et en faisant la lecture de la parole de Dieu, souvent on lit certains mots, mais je me dis que très rapidement on passe au chapitre d'après. Romains chapitre 5 nous parle de la réconciliation. Et quand on parle de réconciliation, même nous, dans notre manière de vivre la réconciliation, combien de fois on peut utiliser ce mot pour dire le couple s'est réconcilié ? Mais est-ce qu'on a pris la mesure de tout ce que ça comporte ? Alors, je voulais partager avec vous, je n'en ai pas dit 8 parce que je cherche les nombres, hein, mais parce que j'en ai trouvé 8. Après, si vous en trouvez 10, moi, je veux bien prendre les deux qui suivent. Amen. Mais déjà, 8 nous donne un certain nombre d'éléments pour la réflexion. Jean chapitre 14, verset 17, Jésus dira « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, moi je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Pourquoi ? Parce que quand on parle de réconciliation, en tous les cas de ce que Romains 5 nous parle, il est question de notre réconciliation avec Dieu. Et combien de fois nous pouvons être attaqués par l'ennemi pour mettre du doute quant à cette réconciliation avec Dieu. Il est nécessaire pour nous tous, il est nécessaire pour chacun d'entre nous de comprendre ce que Dieu nous offre comme réconciliation. N'est pas quelque chose de léger, n'est pas quelque chose de friable, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose sur lequel nous pouvons bâtir notre relation et notre vie avec Dieu. On va lire le texte de Romains chapitre 5, les versets 1 au verset 5. Romains chapitre 5, verset 1 au verset 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. En quelques versets, nous avons 8 choses qui doivent pour nous être des jalons, être pour nous des points sur lesquels nous pouvons et nous devons bâtir cette réconciliation avec Dieu. Quand nous, on se réconcilie entre êtres humains, en général, quand on arrive à cette réconciliation, il y a un temps de reconstruction nécessaire. Pourquoi ? Parce que malgré le fait qu'on ait pu faire cette réconciliation, il y a toujours des images, des pensées de ce que nous avons pu vivre, de ce que nous avons pu entendre, qui nous reviennent et qui parfois nous agressent et qui ont tendance à ébranler un peu cette réconciliation. C'est un peu comme une tempête qui vient ou des vagues qui viennent encore une fois essayer de voir si ce que nous avons construit est solide ou pas. Et parfois, un mot peut ranimer une souffrance, non ? Parfois, un geste, on peut peut-être même se poser la question, est-ce qu'on s'est vraiment réconcilié ? Est-ce qu'on est vraiment en train de bâtir ? Ou encore, il y a des points qui font paraître une certaine sensibilité, voire même fragilité de cette nouvelle relation. Or, quand la parole de Dieu nous parle de ce que Dieu nous accorde, il commence par la paix. Au verset 1, il dira, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. » Et Jésus dira, « Je vous donne la paix, non pas comme le monde donne. » La véritable réconciliation, celle que Christ nous offre, vient détruire quelque chose qui jusque-là nous a mis dans un état de souffrance. Éphésiens chapitre 2, verset 14, dit, Éphésiens chapitre 2, verset 14, « Car c'est lui, notre paix, lui que des deux n'a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. » La véritable paix vient enlever ce qui faisait de division. Quand une relation se reconstruit, il est nécessaire d'enlever tous les débris du passé. Parce qu'on ne peut pas rebâtir quelque chose de bien sur du vieux. Excusez-moi de dire ça comme ça. On ne peut pas utiliser des vieilles choses pour refaire du neuf parce qu'on risquerait de faire pire qu'avant. On a besoin de repartir sur des bases propres. Et là, la parole de Dieu nous dit qu'il est venu détruire le mur de séparation et d'inimitié. Dieu soit béni pour cette œuvre que Christ fait et que seulement lui pouvait accomplir pour que finalement la paix qui nous est accordée soit une vraie paix, que nous puissions, avec un cœur en paix, nous approcher de Dieu. Nous qui avons été ennemis de Dieu, Dieu n'a jamais été notre ennemi. Dieu n'a jamais été notre ennemi. C'est nous qui avons fait de Dieu notre ennemi. C'est nous qui avons considéré que Dieu n'avait pas sa place dans notre vie. C'est nous qui n'avons pas compris son amour, sa bonté, sa miséricorde et que nous avons vu dans tout ce qui pouvait nous arriver la manière de Dieu de nous faire du tort, de nous faire du mal. Or, la parole de Dieu, il nous dit qu'en effet, il y a un mur qui s'est établi. Qui a bâti ce mur ? C'est nous qui avons besoin de murs pour nous rassurer. C'est nous qui essayons de faire quelque chose dans laquelle nous, on peut se rassurer. Dieu n'a pas besoin de murs. Et quand Jésus vient détruire ce mur, vient détruire les faux raisonnements qu'on a pu se faire dans notre tête. Les explications qu'on a pu se donner par nous-mêmes. Combien de fois, dans un temps de partage, je peux souvent être étonné des propos que les personnes expriment en considérant Dieu injuste. En disant, mais s'il existait, il aurait fait ceci, il aurait fait cela. Et souvent, je cherche les mots pour leur faire comprendre, parce que le but, ce n'est pas de froisser ou de, comment dire, d'agresser qui que ce soit, mais de faire comprendre que c'est nous qui avons bâti les murs. Si je construis un mur, et après je me plains parce qu'il y a un mur, à qui je dois m'en prendre ? Ce mur, c'est, je l'ai construit avec mes propres mains, à cause de mes péchés, à cause de mes manquements, à cause de tout ce que j'ai pu utiliser comme raison pour ne pas avoir de contact avec Dieu. Aujourd'hui, on peut bâtir un mur sans forcément mettre des briques, non ? Ça arrive parfois des personnes qui ne veulent plus de relations. Il y a un mur qui se fait. Et parfois, ça peut être même quelqu'un, un voisin. Allez, un voisin qu'en effet, il n'y a plus aucun dialogue. Aucun. Même si le mur, il n'est pas visible, mais on pourrait dire qu'il est presque palpable. Pourquoi ? Parce que la relation a été brisée. Mais Jésus vient enlever ce mur, vient enlever tout ce qui pourrait empêcher cette relation en nous apportant un élément qu'on n'avait pas avant, la paix. Deuxième élément, la parole de Dieu nous dit, c'est à lui que nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce. Deuxième élément que le Seigneur vient établir dans notre vie, c'est cet élément de l'accès à la grâce. Cette grâce qui est imméritée, cette grâce qui veut dire que par nous-mêmes, nous n'avions pas le droit. On ne pouvait pas y accéder. Autrement, ce n'était pas une grâce, n'est-ce pas? Et Éphésiens chapitre 2, versets 17 et 18 dit « Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. » Quelle grâce pour nous de pouvoir nous approcher de Dieu. Sans besoin de passer ni par les uns, ni par les autres, directement. Aimez-vous parler à Dieu. Aimez-vous vous approcher de Dieu. Oui ? Moi, je me dis qu'on devrait, avec la grâce de Dieu, arriver au point de jamais s'en éloigner. N'est-ce pas ? Mais certes, se rapprocher toujours plus, parce que la première rencontre avec celui qui est Dieu fait qu'on se sent petit. Non ? J'ai aimé l'explication qu'il nous a donnée un soir le frère Stéphane Minger. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette explication concernant quelqu'un qui s'approche du Mont Blanc. Très belle l'image, non ? Quand on est loin, déjà, on voit la taille de la montagne, on dit quand même, on se sent petit. Hein. Mais plus on s'approche, plus on se sent petit. Et tant mieux que ça soit comme ça. Parce que ça nous permet de réaliser qu'en effet, c'est Dieu qui nous a ouvert la porte. Ce n'est pas nous qui avions le droit ou à quelque part le mérite de pouvoir ouvrir un tel accès. Jésus, il nous a ouvert cet accès auprès du Père. Troisième élément, verset 2 nous dit aussi, il est question pour nous de nous glorifier dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est la joie dans l'espérance. Quand une paix est finalement construite, quand une réconciliation se produit, si elle est fondée sur des vrais sentiments, on repart avec le cœur plein de joie. C'est vrai ou pas ? On a, il y a quelques semaines en arrière, partagé ce texte du fils prodigue. Et on voit la joie du père de retrouver son fils. Il dira même, mon fils était mort, mais voici, il revient à la vie. Quelle joie, quel bonheur, quelle réconciliation de retrouver son garçon, de le prendre dans ses bras et de dire finalement, t'es rentré à la maison. Quelle joie dans cette espérance qui nous a été donnée à cause de la gloire de Dieu de pouvoir nous aussi, chacun d'entre nous, vivre cette espérance. Donc la réconciliation avec Dieu produit aussi dans notre cœur une véritable espérance. Romains chapitre 8, versets 18 à 23. Romains chapitre 8, versets 18 à 23, la parole de Dieu nous dit « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. » Avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. La parole de Dieu nous parle d'une délivrance profonde. Il nous parle d'une espérance qui nous permet d'entrevoir l'avenir autrement qu'on pouvait l'entrevoir avant. Comment voyez-vous votre avenir ? Posez la question à vos amis, Posez la question à ceux qui vous entourent, comment voyez-vous votre avenir ? Posez la question à un jeune, comment tu vois ton avenir ? Il y a une certaine incertitude, une certaine crainte qui s'instaure de plus en plus. Je dirais même que pour certains, c'est de la panique. Certains diront, on n'a pas de visuel. On ne peut pas imaginer l'avenir. On ne sait pas s'il y aura un avenir. Et la réalité, elle est là. Et est-ce que ce qu'ils disent, est-ce qu'il est juste ou pas ? Oui. Dans la mesure où on se base sur les éléments qu'on voit et qu'on constate, on peut se dire même, mais quel avenir pour demain ? Mais du moment que nous avons établi cette relation avec Dieu, les choses changent, n'est-ce pas ? Pourquoi a-t-il changé dans votre cœur les choses ? Dites-moi. Qu'est-ce qui fait que les choses changent ? Très bien. Quoi encore ? L'espérance et l'assurance de sa présence à nos côtés. Sa parole, elle nous atteste, non pas comme des mots d'homme. Parce que les mots d'homme, c'est des promesses. Il y a des périodes dans la vie où on entend beaucoup de promesses. Et après, on ne voit pas beaucoup de promesses réalisées, n'est-ce pas ? Par contre, quand Dieu fait des promesses, il les maintient toujours. Pourtant, l'apôtre Paul nous dit, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. À quelque part, il ne faut pas qu'on fixe nos yeux sur le présent pour dire ben, l'avenir est fichu. Parce que notre avenir n'est pas dans ce monde, mais notre avenir, il est en Jésus-Christ. Donc, cette réconciliation avec Dieu ne doit pas-t-il produire en nous un regard différent sur l'avenir ? Je dirais même que de pessimiste qu'on pouvait être, on devrait devenir comment ? Comment ? Optimiste. Tiens, hein ? Êtes-vous pessimiste ? Alors celui qui vous parle, c'est un pessimiste repenti. J'ai été pessimiste au point de devenir sincèrement fatigant pour ceux qui étaient autour de moi. Je n'arrivais pas à me réjouir des bonnes choses parce que je ne voyais que le négatif et je montrais aux autres que le négatif. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a parlé. Alors Dieu se sert des uns et des autres. Ce jour-là, Dieu s'est servi de mon épouse. Qui m'a dit, mais tu te rends compte de ce que tu viens de dire ? Comment tu fais à dire une chose pareille ? Et ça a été un électrochoc. Et c'est vrai qu'en étudiant la parole de Dieu, on doit apprendre certes à ne pas... On ne peut pas dire que l'avenir de ce monde va être meilleur. Mais puisque notre avenir, il est en Jésus-Christ, ça doit m'amener à voir l'avenir autrement. Pourquoi ? Parce que si cette espérance n'habite pas dans mon cœur, il faudrait que je me pose même la question, est-ce que j'ai véritablement compris ce que ça veut dire, se réconcilier avec Dieu ? Est-ce que Dieu habite mon cœur au point de ne plus me laisser, à quelque part, détruire par les situations actuelles, mais que mes yeux restent fixés sur mon avenir qui est en Jésus-Christ. Alors, il y a deux avenirs. Oui. Celui avec Christ ou celui sans Christ. Qu'avons-nous choisi ? Eh bien, alors, on doit devenir optimiste. Si ce n'est pas le cas, nous sommes appelés à y travailler. Mais le texte, verset 3, Il dit, bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations. Oh là là! Comment pouvons-nous nous réjouir dans les souffrances? Déjà, c'est difficile de se réjouir sans souffrance. Non? Combien d'entre vous, le matin, au réveil, ou qui sont réveillés par quoi que ce soit, ils sautent du lit, chouette, une nouvelle journée. De temps en temps, moi, j'entends dire vivement ce soir, qu'on aille se coucher. Non ? On peut être fatigué déjà le matin. On se lève, je ne dis pas qu'on ne se lève pas. On se lève. Mais si on pouvait rester encore un peu, c'est normal. Ça, on le comprend. Non ? Alors, je me dis que si déjà c'est difficile de se réjouir sans souffrance, comment se réjouir dans la souffrance ? 2 Corinthiens chapitre 4, versets 16 à 18, il dit ceci, « C'est pourquoi ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est vrai qu'il y a des souffrances. Quand on les vit au quotidien, on se dit, quand est-ce que ça va s'arrêter? Non? Souffrance peut être physique, peut être morale. Il y a différentes manières de souffrir. Et on n'aime pas souffrir. Alors comment est-il possible que la parole de Dieu nous parle de la joie même dans les tribulations? Parce qu'en réalité, cette souffrance, si on arrive à comprendre, ça demande du temps. Si on arrive à accepter, est-ce qu'on peut accepter la souffrance? Pas toujours. Mais parfois, la souffrance, c'est le moyen qui nous permet d'aller plus loin avec Dieu. Même si ce n'est pas le meilleur chemin qu'on aurait souhaité. Mais ces chemins nous permettent en réalité de comprendre tout un ensemble de choses qui touchent à notre vie, à notre manière de raisonner, notre manière de fonctionner. Et ce n'est pas depuis aujourd'hui. Quand je lis la parole de Dieu, je vois beaucoup d'hommes et de femmes dans la parole de Dieu avoir vécu des moments très difficiles dans leur existence. Est-ce que vous en avez, vous, en tête quelques-uns? Job. Alors lui, c'est... Wow! Là, t'es parti de la pointe de la montagne. Qui d'autre? Joseph. Daniel. Anne. Des souffrances, il y en a tout. Jonas, oui, aussi. Il a eu besoin de passer par sa souffrance, non? Jérémie, Ésaïe, qui encore? Ah ben vous en citez plein. Et alors comment pouvons-nous croire que la souffrance ne devrait en tous les cas jamais toucher notre vie? Comment pouvons-nous vivre dans une forme quelconque de vision, de dire mais c'est pas normal qu'en tant que chrétien je souffre? Si je le dis comme ça, ça pourrait laisser entendre que ceux qui ont souffert jusque-là dans la Bible, ils n'avaient pas compris, voire même, est-ce qu'ils étaient chrétiens. Non ? Ça pourrait sembler comme si j'exprimais un jugement. Toute souffrance n'est pas forcément liée à un péché, comprenons bien. Mais la souffrance, elle est là, parfois ça fait partie des conséquences aussi de notre vie. Non ? On peut souffrir de certaines choses parce que peut-être à des moments de notre vie, on n'a pas fait attention. Moi, je sais que parfois j'ai du mal à entendre. Pourquoi ? Parce qu'il y a une période de ma vie, je faisais un travail où il y avait un bruit très fort et au lieu de protéger mes oreilles, j'étais jeune et trois petits points. Eh bien aujourd'hui, j'entends que les trois petits points. Parce que la jeunesse, elle part. Non ? Et des fois, je me dis, mais c'est dommage, j'aurais dû faire attention. Et ça, chacun d'entre nous, il y a des choses qu'on a fait et aujourd'hui, on en paye les conséquences, n'est-ce pas ? Alors, je ne peux pas reprocher à Dieu de dire, maintenant, je souffre de ça, Seigneur, c'est ta faute. Attention. Il y a des conséquences. Alors, certes, Dieu peut nous guérir de tout. Et je le répète, Dieu peut nous guérir de tout. Mais il y a certaines choses qui nous rappellent aussi nos erreurs et qui nous permettent de garder notre humilité au bon niveau. L'apôtre Paul demandera à Dieu d'être délivré d'une certaine écharde. Qu'est-ce que Dieu lui dira ? Est-ce qu'on aurait accepté une réponse pareille ? Oui, Seigneur, la grâce, très bien, mais fais-moi la grâce de m'enlever la douleur. Ma grâce te suffit. Waouh ! Waouh ! Et en réalité, puisque notre sœur, elle le cite, ce texte, l'apôtre Paul, il comprendra que c'est quand il est faible qu'il est fort. Et plus tôt on apprend cette leçon, plus tôt on est fort. Non ? Parce que cette force, elle ne dépend pas de nous-mêmes. C'est la force que nous trouvons en Dieu. Et dans notre maladie, un jour, quelqu'un me disait, une sœur me disait, « Pasteur, je ne peux pas témoigner parce que je suis malade tant que Dieu ne m'a pas guéri. Je ne peux pas témoigner. » J'ai dit, « Tu sais, peut-être que ton témoignage aurait plus d'impact parce que tu es malade et que tu comprends la souffrance des autres et que par contre, dans le Seigneur, en Jésus-Christ, tu as trouvé la force d'avancer dans ta vie. Ah, je n'avais jamais vu les choses comme ça. » Qu'on croit parfois notre manière de voir les choses peut nous empêcher de réaliser l'importance, non pas de s'installer dans la souffrance, mais aussi d'accepter dans cette période de souffrance de chercher notre joie non pas dans le bien-être et dans le fait de ne plus avoir à souffrir, même si c'est ce qu'on souhaite, mais de dire « Seigneur, ma joie repose en toi ». Jean chapitre 16, versets 32 et 33, il dit ceci, « Voici que l'heure vient, et même elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, où vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi, pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. » Moi, j'ai vaincu le monde. Waouh ! Et c'est ça qui me donne la joie, même dans les tribulations. C'est quoi ? C'est sa victoire, mais c'est aussi sa présence dans ma vie. Parce que si je devais vivre les tribulations tout seul, je ne m'en sortirais pas. Mais cette espérance, cette promesse, cette réalité me permet de faire face parce que quelle qu'elle soit la tribulation par laquelle nous passons, Jésus l'a déjà vaincu à la croix. Et à cela, est-ce qu'on peut dire amen ? Amen. Alors, souvenons-nous de ce texte quand on passe par les tribulations. Il y a des périodes parfois où on n'arrive pas trop bien dormir. On a le choix de tourner et retourner dans le lit. Et parfois, on peut aussi dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ? Non ? Ah, il parle. Je vois quelqu'un qui, parfois la nuit, elle est réveillée. Hein ? Les jeunes, pas plus, hein, pas plus. Mais bon, mais bon. Mais ce n'est pas ne pas dormir pour ne pas dormir. Ah. Écouter et se taire. Et Dieu nous dit des choses qu'on a besoin d'entendre. Non ? Et même nous, peut-être on peut dire les choses autrement au Seigneur. Parce que ce silence nous permet en réalité de réaliser qu'on n'est pas grand-chose. Et en même temps, recevoir une parole, une consolation de la part de Dieu. Vous savez, parfois il y a des choses qu'on dit au Seigneur, c'est pas juste. Ça vous est arrivé de dire au Seigneur, c'est pas juste ? Hein ? Moi, il y avait un sujet sur lequel, pendant des nuits, je disais au Seigneur, c'est pas juste. Seigneur, c'est pas normal. Pourquoi il faut payer les pots cassés des autres ? Et pendant des heures, j'ai pu dire au Seigneur, Seigneur, c'est pas normal, c'est pas juste. Juste au moment où j'ai senti dans mon cœur le Seigneur me dire, et moi ? Ah, ça m'a retourné, hein, comme une chaussette, direct. Et là, j'ai dit, Seigneur, pardon, donne-moi juste la force. Et moi. Le Seigneur sait ce que nous avons besoin d'entendre. Et il sait comment nous aider aussi à vivre autrement les épreuves que nous pouvons traverser. Personne n'a le droit de minimiser les épreuves que les autres passent. Personne. Parce que tant qu'on ne les vive pas, on ne sait pas ce que c'est. Par contre, il y a une chose dont on peut être certain, c'est que quelle qu'elle soit l'épreuve que nous traversons, le Seigneur est toujours tout près de nous et il ne nous laissera jamais tomber. Et c'est pour ça qu'il nous dit, prenez courage. Prenez courage. Ça fait partie de quelque chose qui nous permet aussi de dire oui, c'est vrai, j'ai une véritable réconciliation avec Dieu. Ce n'est pas Dieu qui me punit, mais c'est Dieu qui m'aide à vivre telle ou telle situation. On va parler de la persévérance. Il dit le texte, la persévérance est une fidélité éprouvée. Dans l'évangile de Luc, il nous est parlé au chapitre 8, verset 15. Il dit, ce qui est dans la bonne terre, il parle de la semence, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur bon et honnête, la retiennent et portent du fruit par la persévérance. Un des jalons que Dieu veut instaurer dans notre cœur, c'est la persévérance. Combien de temps ça met à grandir la semence ? Plusieurs mois. Et il y a quelque chose que j'ai trouvé toujours incroyable, c'est le geste du semeur. Vous avez vu le semeur quand il jette sa semence, il y va, hein ? Il y va. C'est un geste bien précis et il sait où il fait tomber, il faut que ça puisse bien s'éparpiller. Mais est-ce que vous avez vu déjà le semeur, une fois qu'il a fini de semer, s'étaler par terre et regarder les plantes pousser ? Oui, très bien. Et après avoir arrosé, il aurait pu quand même s'étaler par terre. Non ? C'est un peu boueux, mais allez, quand on aime, hein, on ne se pose pas de questions. Pourquoi il ne se met pas allongé par terre pour regarder ? Oui, mais ça ne se fait pas en deux secondes. C'est long, il y a un processus. Mais à quelque part, une fois qu'il a semé, une fois qu'il a arrosé, il peut se donner à autre chose parce qu'il y a besoin de temps. Et en même temps, même s'il était là pour regarder la plante, elle ne va pas pousser plus vite. Non ? Mais il peut faire confiance à Dieu dans le fait que Dieu fera que cette plante, elle pousse. Par contre, reste de sa responsabilité, s'il veut que ça pousse bien, de l'arroser. Et la persévérance, c'est l'arrosoir. Notre prière, une fois qu'on l'a faite au Seigneur, une fois qu'on a mis cette foi dans ce que le Seigneur nous dit, il est question pour nous de rester dans cette persévérance. Et la persévérance, c'est une fidélité éprouvée. Est-ce que vous seriez là en train d'arroser quelque chose si vous n'aviez pas l'espérance que ça pousse? Vous le faites un jour, vous le faites deux, mais après vous dites, j'ai autre chose à faire. Hein? Je vais regarder peut-être les plantes du voisin. Mais il est question pour nous d'apprendre à avoir cette persévérance, une fidélité éprouvée. Seigneur, ça veut prendre un jour, 10 jours, un mois, 10 mois, mais il y a un moment où ça va pousser. Et il y aura un effort de la part de cette semence de sortir de terre. Il y a un travail énorme pour la petite semence. Et la semence, si c'est une bonne semence, elle va pousser vers le haut. Et après, le but, c'est quoi? Est-ce qu'elle va nous amener une seule semence ou le but, c'est d'en avoir plein? Plein. Mais ça, celui qui a installé la semence, il doit avoir la confiance dans celui qui lui a donné la bonne graine. Non? Et il est question pour nous de dire, Seigneur, moi je sais que tu es fidèle dans ce que tu dis. D'ailleurs, au verset 4, il nous parle de la fidélité. La fidélité éprouve l'espérance. Dans Luc chapitre 21, versets 14 à 19, il dira ceci. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par des parents, des frères, des proches et des amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauvegarderez vos âmes. Il est question pour nous de cette fidélité, pas seulement qui va de la part de Dieu envers nous, mais aussi de notre part envers Dieu. Quand on parle de fidélité, est-ce que je dis bien, est-ce que je dis juste si on dit que la fidélité, elle doit être dans les deux sens? Si on a un seul qui est fidèle, qu'est-ce qui se passe? L'autre côté, c'est quoi? Est-ce que Dieu a jamais été infidèle? Jamais. Qui a fait preuve d'infidélité? Nous. Alors, est-ce que nous, on peut espérer, et je crois qu'il n'y a même pas besoin de l'espérer, il y a une assurance dans la fidélité de Dieu. Mais est-ce que nous, on ne doit pas faire aussi preuve de fidélité envers Dieu? Est-ce que nous sommes fidèles dans nos engagements avec Dieu? Je me suis rendu compte que parfois, on peut dire des choses et on les pense très fortement. Non? Et on peut dire tout haut ce qu'on pense tout bas. Non? Alors imaginez, vous êtes dans la voiture et vous avez vos enfants. Et là, vous passez devant un fast-food et vous dites, un de ces jours, je dois absolument ramener les enfants au fast-food. Vous avez dit tout haut ce que vous pensiez tout bas. Ça ne veut pas dire là tout de suite. Mais eux derrière, qu'est-ce qu'ils ont entendu? Papa, tu t'arrêtes quand alors? T'avais dit que. Tu as promis, papa. On t'a entendu. Hein? Il l'a dit, papa. C'est vrai ou pas? Et je me rends compte que nous, parfois, on dit des choses au Seigneur, mais est-ce qu'on tient nos engagements avec Dieu? Moi, je reviens peut-être à la première promesse qu'on a faite à Dieu. Quelle est la première promesse que vous avez faite à Dieu? De l'aimer. Je te donne... Oula. Je te donne, mais combien de fois on a pu être manquant dans nos promesses. Est-ce que là aussi, on ne doit pas travailler notre fidélité dans les deux sens? Allez, on continue. On est arrivé presque à la fin. Il y a l'espérance. Il dit le texte, « Or, l'espérance ne trompe pas. » Hébreux chapitre 6, versets 18 à 20, il dit « Afin que par deux actes immuables, dans lesquels il est impossible que Dieu monte, nous ayons un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour notre âme. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, devenu souverain sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchizédek. L'espérance, une ancre, quelque chose qui nous permet de tenir malgré les tempêtes. Si nous perdons cette espérance, que se passe-t-il? Si on reprend l'image de cette ancre, ça veut dire qu'on n'a plus rien qui nous retient, on est, entre guillemets, perdu. Les difficultés et les adversités vont nous amener où elles ont envie, on ne contrôle plus rien. De là l'importance pour nous de garder cette espérance en Christ parce qu'on aura des tempêtes dans la vie, non? Mais la question c'est comment on va en sortir. Et si je garde cette espérance dans le fait que l'espérance ne trompe pas, si je garde dans mon espérance dans le fait que Dieu n'est pas menteur, si je garde ma vie fixée sur les promesses de Dieu, quelle qu'il soit la teneur ou la puissance de la tempête, je sais que Dieu sera toujours là. Toujours là. On pourrait partager des témoignages, il y aura certainement l'occasion, mais combien d'entre nous ont déjà pu éprouver la solidité de cette ancre qui est l'espérance en Christ. Dernier élément, l'amour. Il dit le texte, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour est quelque chose de très puissant. Quand on manque d'amour, le manque d'amour, ça détermine aussi une relation qui se brise. N'est-ce pas? Ce qui permet parfois de tenir dans une relation, c'est justement l'amour. Parce que dans une relation, on peut commettre des erreurs, non? On peut parfois parler trop vite, voire même mal parler. On peut agir pas bien. Il peut y avoir beaucoup de choses qu'on peut excuser, mais si l'amour est là, on arrive à faire un pas les uns vers les autres et dire « Écoute, je te pardonne, je t'aime. » Et s'il y a l'amour dans l'autre sens, c'est toujours beaucoup mieux. Parce qu'autrement, il y a un problème. Et quand la parole de Dieu nous parle de l'amour, moi je me rends compte de combien encore j'ai besoin d'apprendre. Je disais tout à l'heure en formation baptême, l'amour de Dieu est quelque chose qui nous dépasse. Je n'ai pas donné ce verset à lire, mais je vous le donne parce que hier, il a touché mon cœur. Je l'ai médité hier et à chaque fois que je le relis, ça m'interpelle. Dans le psaume 18, le verset 19, il est dit, psaume 18, verset 19, « Il m'a mis au large, il m'a sauvé. » Parce qu'il m'aime. Alors certes, nous, on a dit au Seigneur, je veux t'aimer. Moi, je me rends compte que je ne peux dire au Seigneur que je veux apprendre à t'aimer. Je ne sais pas encore aimer le Seigneur. Parce qu'il y a encore dans ma vie des choses qui font que mon amour peut être changeant. Non ? Et que mon amour peut être lié aux situations, aux circonstances. Par contre, quand je lis la parole de Dieu, ce verset particulièrement, il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Alors que moi, je ne l'aimais pas. Non ? Donc, j'apprends à aimer le Seigneur. Et plus je découvre l'amour de Christ, plus j'ai envie d'apprendre à aimer le Seigneur. La parole de Dieu nous dit en Romains chapitre 8, versets 16 et 17, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. » Galates chapitre 4, versets 6 et 7. Il dira, et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui crie, Abba Père, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. Alors vous vous rappelez ce texte, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, moi je ne vous donne pas comme le monde donne. Amen. C'est magnifique. Alors si ce texte, si tout ce que nous venons de partager nous enseigne sur la relation et nous enseigne quant à la réconciliation avec Dieu. Si le mot réconciliation veut dire, et je reprends ma liste, paix, accès, joie dans l'espérance, mais aussi dans les moments difficiles. Persévérance, fidélité, espérance, amour. Est-ce que ces mots ne doivent pas être aussi ceux qui caractérisent la réconciliation aussi entre nous? Question, est-ce que quand je me réconcilie avec quelqu'un, est-ce que ces mots ont de la valeur dans cette réconciliation? Jusqu'à où je suis prêt véritablement à vivre la réconciliation? Parce que vous savez, à mon avis, si je prends que le 50% de ces éléments, j'aurai une réconciliation à 50%. Non? Prenez le temps chez vous, de revoir le texte et noter ces mots. Et vous verrez l'importance de tous ces mots dans une véritable réconciliation. Pourquoi ça? Parce que parfois, il y a des choses qui peuvent nous blesser. J'imagine les relations entre les parents et les enfants. Relations dans un couple. Parfois, ça prend des années pour reconstruire. Mais vous savez, la réconciliation ne sera jamais véritable si tous ces points-là ne sont pas atteints dans notre vie des deux côtés. Il est question de confiance, il est question d'espérance, d'amour, de fidélité, il est question de paix, d'accessibilité. Est-ce qu'on se rend accessible à l'autre? Parfois on dit oui, je pardonne, mais à droite, l'autre à gauche. Ou « je pardonne, mais j'oublie pas ». Alors certes, il y a des choses qui marquent, et il n'y a que le Seigneur qui peut nous aider à oublier. Mais j'aimerais qu'on réfléchisse véritablement sur notre relation et notre réconciliation avec Dieu, et aussi notre réconciliation entre nous. Et peut-être qu'on va se rendre compte qu'il y a des points sur lesquels on a besoin de travailler. Et vous savez, les travaux avancent mieux quand on travaille à deux. Je vous laisse cette image. Vous avez certainement vu cette image du tunnel qui a été creusé entre la France et l'Angleterre. Hein ? Vous vous rappelez de cette image ? Il y avait des ouvriers qui travaillaient d'un côté et ceux qui travaillaient de l'autre. Et après, il y a eu un moment où finalement, le petit mur qui restait est tombé et il y a eu deux ouvriers qui se sont tendus la main. S'ils avaient travaillé que les ouvriers français, ça n'aurait pas été plus long. Ils auraient travaillé jusqu'au bout, mais il n'y aurait pas eu main de l'autre côté. Et si c'était que les Anglais? Alors, je ne vais pas dire que ça aurait été plus long. Non, je me garde bien. La main-d'œuvre, c'est la main-d'œuvre. Mais ô combien c'est beau quand il y a un effort des deux côtés. Et si on sent que notre réconciliation n'est pas arrivée à ce point tel que le Seigneur attend de l'avoir dans notre... Ayons le courage de dire, écoute, je pense qu'on a encore un progrès à faire. Lequel ? Celui-là. Prions ensemble. Demandons au Seigneur de nous aider. Et vous savez, j'ai pu, par la grâce de Dieu, voir des couples vivre une véritable réconciliation. Et pourtant, avant, ils avaient vécu des véritables catastrophes. Mais quand Dieu intervient, comme on l'a dit tout à l'heure, il détruit le mur de séparation. Et je crois que s'il y a encore des murs dans notre vie, il faut qu'on demande au Seigneur de les détruire. Pour que nous puissions pas seulement vivre une réconciliation verticale, mais aussi horizontale. Et là, on connaît la véritable paix. On ferme nos yeux et on prie quelques instants, si vous le voulez bien. Seigneur, que ce soit dans notre relation avec toi ou dans notre relation avec nos enfants, le conjoint, la famille. Seigneur, on a besoin de retrouver cette véritable paix, cette véritable confiance qui nous permet de regarder autrement, Seigneur, la personne avec qui, Seigneur, nous avançons dans notre vie. Seigneur, ton amour, ta bonté, ta miséricorde, Seigneur, et ta patience, Seigneur, nous amène jour après jour à reconnaître que nous avons encore des pas à faire dans notre vie pour saisir pleinement le cadeau que tu nous as fait de la réconciliation. Tu nous as réconciliés avec Dieu le Père. Seigneur, et nous, soyons sincères, on n'a pas fait grand-chose jusque-là. Mais tu veux, Seigneur, que dans notre vie, nous puissions le réaliser pleinement et, Seigneur, faire notre part pour véritablement vivre dans sa totalité ce mot si important, si précieux, puisque pour cette réconciliation, toi, tu as payé de ta vie à la croix. Ta parole nous parle d'être réconciliés aussi, Seigneur, avec les autres. Et là, Seigneur, où nous avons encore des lacunes, où nous avons encore des manquements, viens nous aider, Seigneur. Donne-nous cette capacité, cette sagesse, cette force aussi de reconnaître, Seigneur, là où encore on a besoin d'apprendre. Aide-nous, Seigneur, à reconnaître là où nous avons besoin peut-être aussi d'aide. Seigneur, aide-nous à pas seulement à reconnaître, mais aussi à savoir peut-être en parler, et dire à l'autre personne, est-ce qu'on ne peut pas ensemble essayer de trouver une solution? Est-ce qu'on ne peut pas ensemble prier, demander le secours de Dieu? Seigneur, tu nous as promis d'être toujours à nos côtés. Et toutes les fois, Seigneur, que nous voulons nous faire un pas vers toi, Seigneur, le pas que toi tu fais vers nous est bien plus grand. Merci, Seigneur. Merci de faire preuve d'autant de patience, autant d'amour, de bonté, Seigneur, envers chacun de nous. Seigneur, permets que nous puissions voir, Seigneur, dans notre vie, les progrès à accomplir. Mais Seigneur, aide-nous aussi à voir les progrès déjà accomplis par ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence dans notre vie. Seigneur, je veux te prier pour chacun de nous et te dire merci encore ce soir pour cette réconciliation. Merci pour la paix que tu as bâtie entre Dieu le Père et nous. Seigneur, nous voulons te dire encore à toi toute la gloire, au siècle des siècles. Amen.